Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans l'agenda du mois de septembre, l'exposition Muse, portrait d'actrice et le cycle Les pionnières du cinéma à la Fondation Jérôme Sédoupasté, que nous évoquons en compagnie de Stéphanie Salmon et Elvira Chamiri, ainsi que la rétrospective Léo Macaré à la Cinémathèque française et le Festival du film fantastique de Strasbourg. On débute cette partie événement rétrospective avec l'exposition Muse, portrait d'actrice à la Fondation Jérôme Sédoupasté qui a lieu du 29 août au 13 octobre, soit une sélection d'affiches, de photos et de documents inédits issus des archives de la Fondation sur les actrices françaises des années 30 qui ont pu inspirer les metteurs en scène et les affichistes. Une exposition qui est complétée par le cycle Les pionnières du cinéma muet qui a lieu du 29 août au 25 septembre et qui revient à travers une programmation d'une trentaine de films sur la carrière de femmes qui, derrière la caméra, ont œuvré pour le développement de l'industrie cinématographique au premier temps du cinéma, qu'elles soient cinéastes, monteuses, scénaristes, productrices et qu'elles se nomment Mary Pickford, Alice Guy, Germaine Dulac, Lois Weber ou Marie Epstein. Pour en parler, nous avons rencontré Stéphanie Salmon, directrice des collections de la Fondation, et Elvira Chamiri, chargée de la programmation et de l'exploitation.
Stéphanie Salmon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback pour cette exposition Muse, portrait d'actrice. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez réuni cette série de photographies ?
Elle existait en fait déjà. Elle faisait partie des collections de Pathé, des archives de Pathé. Quand Pathé a versé ses archives à la Fondation, ses photographies faisaient partie de tout l'ensemble. Et on les a découvertes en les inventoriant tout simplement, qui avaient des tirages argentiques d'époque, et puis des plaques de verre, 14 cartons de plaques de verre, dont il y a même encore des boîtes qu'on découvrira dans les mois à venir. Mais c'est des photographies qui font vraiment partie des archives et de l'histoire de Pathé et qui sont présentés pour la première fois. Nous, on a été émerveillés en les découvrant et on a compris qu'il y avait un corpus, une unité, un travail qu'on ne comprend pas tout à fait parce que notamment les photographes sont anonymes, mais c'est un fond qui avait son unité, qui était inédit.
Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette collection de photos? Donc, historiquement, Pathé s'est doté d'un studio de photographie, le studio Pathé-Nathan avec Bernard Nathan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ces photos de Bernard Nathan?
Alors, Bernard Nathan, il prend la direction de Pathé en 1929, c'est-à-dire au moment où le parlant apparaît, donc toute l'économie du cinéma va changer. Et il s'inspire énormément du modèle américain, qui est quand même avec des majors assez dominants. C'est ce qu'il va essayer de calquer en France. Et il intègre, il réintègre une série de métiers. Et je pense que sur le modèle des États-Unis, il crée un studio, donc c'est-à-dire avec des photographes qui vont être employés et ne pas laisser leur identité. Donc toutes ces photos sont publiées sous le tampon Photo Studio Pathé Nathan. Et il y aura une sorte de style Pathé qui va être mis en place, alors de manière très ferme à partir de 1932. Donc on prend bien sûr des photographies des tournages, des photographies des films en train de se faire. On voit des metteurs en scène au travail, des acteurs qui répètent leur rôle, beaucoup de techniciens. Et il y a des séries particulières qui sont consacrées aux portraits. Donc les acteurs, les actrices, les metteurs en scène, même des affichistes ou des scénaristes. Mais il y a des très très belles séries concernant les actrices. Et moi, je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en parallèle avec l'influence des actrices américaines. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans l'exposition, mais le modèle américain est très très présent au début des années 30 dans les revues. Et puis on voit petit à petit qu'il y a une sorte d'école française, notamment à travers ce studio Pathé qui se met en place. Et ces photographies, elles sont vraiment caractéristiques d'un style.
Ces photographies, on les retrouve dans une revue qui s'appelle L'Image, qui a été initiée, qui était la revue Pathé de l'époque, des années 30.
Oui, c'est une revue qui est reprise par Pathé, donc qui au début s'intéresse à pas mal de sujets, et qui petit à petit va permettre au public, parce qu'en fait, contrairement aux revues précédentes, l'image ne s'adresse pas aux exploitants, mais elle s'adresse au public, et cette revue va présenter des articles sur les stars, des actrices sur les tournages, des façons, on trouve même des articles sur la façon de se maquiller. En fait, l'actrice devient un modèle aussi. Elle livre ses secrets, elle est inaccessible, mais en même temps, elle a un mode de vie qui est assez sportif, assez moderne, et elle paraît proche et lointaine, et elle livre ses secrets au lecteur. Et les photographies sont aussi publiées dans des journaux comme Pour Vous, Cinémonde, enfin les revues de cinéma de la période.
Et quel est l'impact de ces photos auprès du public de l'époque? C'est un petit peu aussi le début du Star System, c'est le cinéma qui devient glamour, qui s'affiche dans la une des magazines, le cinéma change à ce moment-là.
Je pense qu'on a déjà ces notions de star et de vedette dès les années 20 et même avant, mais l'exemple là des photographies Pathé, il est, je crois vraiment que ça se fait en réaction, pas de manière réactionnaire, mais en réaction par rapport à l'influence des États-Unis. Il concerne vraiment ces actrices françaises. Très très peu vont s'exporter, sinon Annabella peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'impact? Je ne sais pas, mais il y a vraiment un style. Il y a un style qui est complètement différent de ce qu'on peut voir ailleurs dans la presse.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actrices, justement? On n'en a pas beaucoup parlé. Il y a Arletty, notamment, pour citer sans doute la plus célèbre. D'autres moins, sans faire l'historique de chacune. Quelles sont celles qui ont marqué cette époque-là?
Donc chez Pathé, au début des années 30, il y a énormément de films avec Gaby Morlaix, qui est vraiment la vedette Pathé, qui est capable d'investir à peu près tous les registres. Des actrices aussi qui viennent du théâtre, comme Elvire Popesco, comme Marie Marquet, de manière plutôt occasionnelle. Des femmes qui viennent ou du muet ou du musical, mais qui ont des débuts de carrière relativement marqués pendant les années 20, comme Florel, qui va élargir son champ de rôle chez Pathé. On va aussi trouver des actrices qui ont eu une carrière internationale. Et on est à une période où les films se font en version française. Enfin, on n'a pas les sous-titres, donc on tourne des versions françaises avec la même équipe des versions allemandes. Et donc, on a des actrices venues de l'Est aussi qui tournent des films pour Pathé. C'est le cas par exemple de Brigitte Helm. Et puis il y a énormément de jeunes actrices, donc vous parliez d'Arletty, mais on a aussi Marie Glory, qu'on a maintenant beaucoup oublié, mais qui a beaucoup tourné avec Pathé, Edwige Feuillère, des femmes qui ont joué un ou deux rôles comme Ginette Did, Gisèle Casadesus aussi, qui joue son premier rôle au cinéma chez Pathé, et puis je sais pas, elles sont nombreuses, donc... Voilà.
Et dans cette exposition, on trouve aussi des affiches de films, de belles affiches. Ces créations d'affiches, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'on en a quelques-unes là dans l'exposition?
Alors les affichistes, ils sont extérieurs à Pathé, c'est pas des salariés. Certains, comme Cecchetto ou Marcel Bloch, vont beaucoup travailler pour la maison. Ils sont, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce qui se fera dans les années 40, là on voit vraiment que c'est... On a beaucoup d'affiches avec des portraits d'actrices. J'ai l'impression que c'est une tendance. Et dans certains cas, la photographie du studio va permettre de créer l'affiche.
Elvira Chamery, bonjour, merci d'être avec nous dans Flashback. Alors, parallèlement à cette exposition Muse Portrait d'Actrice, il y a un cycle sur les pionnières du cinéma muet. Comment les femmes, au début du siècle, dans les premiers pas du cinématographe, comment elles ont réussi à s'imposer dans cette industrie très, très masculine?
Alors, c'est une question un peu difficile, mais en fait, au début du cinéma, finalement, je pense que c'était moins difficile pour les femmes de s'imposer parce que le cinéma était moins organisé, si on veut. L'organisation des studios, le fonctionnement des studios n'existait pas à l'époque. Et finalement, elles n'ont pas eu tant besoin que ça de s'imposer. Ça s'est fait de manière plutôt naturelle, en fait. On pouvait être engagé sur un tournage et se retrouver à faire quelque chose qu'on n'était pas du tout censé faire. Et finalement, les femmes avaient des rôles de productrices, de réalisatrices, sans que ce soit forcément une bataille, comme on peut le dire après, comme ça a été le cas peut-être plus tard et aujourd'hui encore. Voilà, je pense que c'est vraiment le fait que les studios et l'organisation des studios n'étaient pas établis qui a permis justement que pendant quelques années, les femmes puissent avoir et pratiquer des métiers qui ensuite pouvaient être plus difficiles à, à accéder.
Alors, il y a une trentaine de films courts et longs métrages dans ce cycle. Quelles sont les œuvres marquantes que l'on peut y découvrir?
Alors, il y a plusieurs choses qui sont assez différentes, en fait. Vous avez tout un travail de restauration qui a été fait par l'Observfilm et dont on montre une partie pendant le cycle. Donc, vous avez 8 films qui ont été faits par Alice Guy aux États-Unis, puisqu'elle avait monté sa boîte de production aux États-Unis. Donc, on en passe 8. Ça, c'est des films qui sont assez rares et assez importants. Et de voir sa carrière à l'étranger est assez intéressante, puisqu'elle aborde des sujets, justement, qu'elle n'exploitait pas quand elle était en France. Vous avez aussi le film The Blot de Louise Weber. Louise Weber, qui a aussi pendant un certain temps été un peu oubliée de l'histoire du cinéma et qui, par ses travaux de restauration et les différents travaux de recherche d'historiens du cinéma, réapparaît un petit peu et dont on parle un peu plus. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel qu'on va montrer, c'est un fragment d'un film qui s'appelle Vicenta, qui a été fait par Musidora, qu'on a très longtemps cru perdu et qui a été retrouvé et restauré par la Cinémathèque française. Donc ça va être un moment fort du cycle. Et il sera présenté par Yvon Dupart, qui est le président de l'Association des Amis de Musidora, qui travaille justement à la mémoire de son œuvre cinématographique et qui parleront du film, de sa carrière et de la restauration qui a été faite sur le film.
Alors le cycle, il comprend des cinéastes, des monteuses, des productrices. On peut parler de Mary Pickford aussi, qui est très présente. Et puis, vous l'avez cité, Alice Guy, dont on célèbre les 50 ans de la disparition. On la considère aujourd'hui comme la première femme cinéaste. Il reste encore beaucoup de choses à célébrer sur Alice Guy. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a poussé à proposer ce cycle de pionnière du cinéma?
Alors, je ne sais pas si ça a été une raison, mais en tout cas, on savait tout de suite qu'elle allait avoir une place majeure dans le cycle. On a fait cycle parce qu'on voulait redécouvrir un petit peu ses filmographies. Alors, à la Fondation, ça nous est déjà arrivé, évidemment, de passer des films qui ont été produits ou réalisés par des femmes, mais vraiment de les mettre à l'honneur dans un cycle qui leur a été consacré, c'était important. C'est vrai que l'anniversaire qui est actuellement celui d'Alice Guy était aussi intéressant. Et puis, c'est le travail de restauration aussi qui a permis aussi qu'on puisse montrer ces films, parce que finalement, l'idée de faire un cycle consacré aux femmes nous trottait dans la tête depuis un moment. Mais la possibilité de montrer ces films est possible grâce aux différentes restaurations qu'il a été possible de faire. Et puis, on a aussi la possibilité de montrer des films ou bien d'aborder des personnes un peu moins connues que Mary Pickford, comme vous l'avez dit, ou même qu'Alice Guy, qui a été très longtemps méconnue, mais qui commence vraiment maintenant à reprendre un peu sa digne place. On passe un film d'une réalisatrice suédoise qui, pour le coup, est totalement inconnue en France, et qui, on a eu la possibilité de montrer un film en 35 mm. En plus, c'est une des premières fois qu'il passe en France. Ou bien de s'intéresser à Renée Delio, qui est une scénariste qui a une carrière très prolifique. Son mari était réalisateur et elle a écrit quasiment tous les films. On en passe un dans Les Mansardes de Paris. Enfin, voilà, on parvient à un petit peu vagabonder dans ce que pouvait être le cinéma féminin, si on veut, de cette époque-là. Et Alice Guy a évidemment largement sa place, puisqu'elle en est la première participante.
Donc, je rappelle l'exposition Muse, portrait d'actrice à la Fondation Pathé du 29 août au 13 octobre. Et donc, le cycle Les pionnières du cinéma muet, soit quand même une très très belle programmation d'une trentaine de films, notamment évidemment d'Alice Guy, de Germaine Dulac, de Louise Weber et de beaucoup d'autres, qui donc se déroulent du 29 août au 25 septembre. Dans les rétrospectives de ce mois de septembre, mon cher Antoine, nous avons la rétrospective Léo Macaré à la Cinémathèque française, qui a débuté le 29 août et qui se poursuit jusqu'au 24 septembre.
Alors oui, Léo Macaré, je peux dire, moi, par exemple, que c'est peut-être le réalisateur par lequel ma cinéphilie, qu'on peut qualifier de cas relativement grave, a démarré, puisque dans mon lycée, quand j'ai devais être en 5e ou en 4e, on passait l'extravagant Mr. Ruggles, qui est un film extraordinaire de Léo Macaré, qui raconte l'histoire d'un Américain totalement parvenu, d'un Texan aux manières extrêmement rustres, mais qui gagne beaucoup d'argent et qui décide d'embaucher un majordome anglais pour avoir des manières et pour que tout le monde autour de lui ait désormais les manières d'un patricien bien élevé. Et donc le majordome arrive et c'est Charles Laughton, le majordome, ce personnage extraordinaire, cet Anglais bougon, connu aussi comme réalisateur dans La Nuit du Chasseur. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous découvrez le cinéma américain des années 30 à travers un film comme L'Extravagant Mr. Ruggles, qui est un film d'une très grande finesse, d'une très grande intelligence, vous vous rendez tout de suite compte que le cinéma de l'âge d'or d'Hollywood, c'est quelque chose de vraiment très riche et très intéressant. Alors, Léo McCarey, c'est quelqu'un qui a eu une carrière absolument extraordinaire. Comme beaucoup de gens dans le cinéma, il a commencé en faisant des petits métiers et il est devenu ce qu'il appelait lui-même la script girl de Todd Browning. Donc Todd Browning, c'est un des pères fondateurs du cinéma, hein, et notamment du cinéma fantastique. Et ensuite, il va se retrouver comme l'un des conseillers et un peu, je dirais, des hommes à tout faire de Hal Roach. Et Hal Roach, c'est un personnage lui aussi très important de l'histoire d'Hollywood, puisque c'est notamment la personne qui a produit tous les films de Laurel et Hardy. Et donc, Léo McCarey disait, en fait, lui-même, qu'il avait inventé Laurel et Hardy. Il était gagman pour Hal Roach, et puis, à un moment, il voit arriver d'un côté Hardy, et il voit arriver d'un autre côté Laurel, et il s'est dit, mais au fond, si je commençais à faire des gags avec ces deux types-là, ça va être vraiment drôle. Et c'est comme ça, selon en tout cas Léo McCarey, que le duo a été créé. Donc, il y a beaucoup de films avec Laurel et Hardy qui ne sont pas signés Léo McCarey et sur lesquels il serait intervenu. D'autres sur lesquels il est intervenu. On va les voir dans cette rétrospective à la Cinémathèque. Au total, il y aurait quand même une centaine de films de Laurel et Hardy sur lesquels Léo McCarey serait lui-même intervenu. Et puis alors, il y a une période de la carrière de Léo McCarey où il devient d'un seul coup un cinéaste qui va faire des films très importants. Alors je fais peut-être quand même un petit aparté. Beaucoup des gens qui étaient des figures d'Hollywood ont joué dans des films réalisé par Léo McCarey et il a joué un rôle important dans leur révélation. C'est le cas des Marx Brothers, c'est le cas de W.C. Fields, c'est le cas de Mae West. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a quand même cette idée que Léo McCarey, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans le fait d'imposer les figures d'Hollywood et bien entendu les films dans lesquels il fait ça, on va pouvoir les voir aussi à la Cinémathèque.
Et puis Léo McCarey a aussi cette particularité d'avoir réalisé deux fois le même film.
Alors, ça, c'est la carrière, je dirais, de cinéaste, d'auteur de Léo McCarey. On peut dire qu'il y a quelques films de Léo McCarey qui sont vraiment très importants, et je vais venir bien sûr à celui que vous évoquez. Alors, il y a L'Extravagant Mr. Ruggles, dont j'ai parlé au début, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de Léo McCarey, il faut absolument pas le manquer. Il y en a un qui est très bizarrement méconnu avec Cary Grant et Irene Dunne, qui s'appelle Sept Sacrées Vérités, qui est un film très drôle et qui est une des grandes comédies, vous savez, de ce genre cinématographique américain qu'on appelait la comédie du remariage, et où en fait on se servait d'histoires de remariage pour ficeler de manière présentable pour la censure des histoires d'adultère. Donc Sept Sacrées Vérités est vraiment un film super. Il y a Place aux Jeunes, c'est un film assez bouleversant. En fait, c'est un film qui ressemble un peu à ce que fera Ozu avec Le Voyage à Tokyo. C'est l'histoire d'une famille dans laquelle il s'avère que les anciens n'ont plus vraiment leur place. Et donc, c'est un film qui, sur ce plan-là, est vraiment visionnaire. Et puis, donc, il y a ce film qu'il a fait deux fois, qui est une histoire romantique, un mélodrame romantique.
Qui s'appelle Elle et lui, quand même.
Qui s'appelle Elle et lui. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas vous raconter le pitch de ce mélodrame romantique. Ce qui est vrai, c'est qu'il l'a fait deux fois. Une première fois avec Charles Boyer et Irene Dunne, deux acteurs qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, mais qui sont de très grands acteurs. Charles Boyer, c'était le grand acteur français d'Hollywood, et Irene Dunne, c'était une actrice qui était capable à la fois d'être une grande actrice de mélodrame et une grande actrice de comédie, et comme dans Elle et lui, il y a un peu les deux, c'est très très bien. Et puis ensuite, il va être refait à l'ère moderne avec Cary Grant et Deborah Kerr d'une façon tout à fait différente parce que les deux personnages vont apporter quelque chose de nouveau.
You know, I painted you like that with the shawl. I wish you could have seen it. Courbet said it was one of my best. I didn't think I could ever part with it. But, well, there was no reason to keep it any longer, and I couldn't take money for it because, well, you know.
So Kobe told me a young woman came into the gallery and she liked it. She saw in it what I hoped you'd see, so I told Kobe to give it to her. Because he said she didn't have any money, and not only that, she was... Anyway, I told him to give it to her. Kobe said she wanted it so badly, and so I told him to give it to her. You know, it's the Christmas season and all that, and you know me, holly in my heart. Why didn't you tell me? If it had to happen to one of us, why did it have to be you?
Oh, it was nobody's fault but my own. I was looking up. It was the nearest thing to heaven. You were there. Oh, darling, don't worry, darling. If you can paint, I can walk. Anything can happen, don't you think?
Yes, darling, yes, yes, yes.
Le Festival du film fantastique de Strasbourg se déroule du 14 au 23 septembre. Alors évidemment, le festival met à l'honneur les films d'aujourd'hui, mais aussi les films d'hier, à travers notamment son invité d'honneur, John Landis, qui recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d'ouverture le 14 septembre. Une masterclass en sa présence aura lieu le 16 septembre, et puis il présentera également les Blues Brothers le 17 septembre en drive-in, suivi d'une rétrospective sélective de ses films. Toujours au programme, la rétrospective Chromosome X, soit 10 films qui illustrent la créativité féminine dans le cinéma de genre. Alors on pourra y redécouvrir ou découvrir Répulsion, La Féline, Possession, Sœur de Sang ou Les Sorcières d'Eastwick. Et puis aussi un double programme Make My Day avec le critique Jean-Baptiste Torret qui va nous faire revivre des films injustement oubliés, des polars italiens, des comédies, des films d'exploitation, tous les genres et toutes les nationalités auront donc leur place dans cette nouvelle collection avec deux films, l'un assez connu, un des premiers films de Catherine Bigelow, Aux frontières de l'aube, l'autre beaucoup moins, en tout cas pour ma part, La mort a pondu un œuf de Giulio Questi avec Gina Lollobrigida et Jean-Louis Trintignant. Je pense que c'est une rareté à découvrir. Et puis également un concert de musique de films fantastiques le dimanche 19 septembre à l'église Saint-Thomas, reprenant les partitions des plus grands compositeurs de musique de films fantastiques. On pourra entendre du Bernard Herrmann, du John Williams, du Jerry Goldsmith, du Danny Elfman ou du Howard Shore, les musiciens de No Limit Orchestra. Donc nous feront voyager à travers des films très célèbres comme Star Wars, Batman ou encore Conan le Barbare et les Seigneurs des Anneaux ou 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et enfin, cerise sur le gâteau, projection le 20 septembre de L'Exorciste de William Friedkin à l'église Saint-Guillaume. Voir l'exorciste dans une église, ça n'est pas tous les jours, donc c'est une belle expérience frissonnante pendant ce festival long du film fantastique de Strasbourg du 14 au 23 septembre.
Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness.
Father! Father!
Father! Nobody expected it.
All right, let's see what the truth is.
Nobody believed it. And nothing could stop it.
There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself.
I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind.
You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that.
The one hope. The only hope. The Exorcist.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.